Chapitre 1 Les belles espérances. 24 février 1815. Napoléon Ier a abdiqué un an plus tôt et vit en exil sur l'île d'Elbe. Les Anglais ont le contrôle de l'île, aucun navire ne peut s'en approcher. En France, le retour de la monarchie est mal perçu par la population qui est en grande partie restée fidèle à Napoléon et aux acquis de la Révolution. Les temps sont troubles, les agents du roi font la chasse aux bonapartistes. L'ancienne noblesse, rentrée au pays après 20 ans d'exil et n'ayant retrouvé ni ses châteaux ni ses terres, veut prendre sa revanche sur le peuple. C'est la Restauration. Edmond Dantès, jeune officier de marine, est de retour après un long voyage au Moyen-Orient à bord du Pharaon, le navire de l'armateur Morel. Pendant le voyage, il a dû remplacer le capitaine Leclerc, décédé d'une mauvaise fièvre. C'est donc lui qui ramène le Pharaon dans le port de Marseille. Mais si lentement et d'une allure si triste que la foule qui assiste à la manœuvre se demande quel accident peut bien être arrivé à bord. Inquiet, l'armateur saute dans une barque et rejoint le bâtiment. « Pourquoi êtes-vous tous si tristes ?» demande-t-il à Edmond. « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma cargaison ?»« Non, monsieur, rassurez-vous. C'est le pauvre capitaine Leclerc. Où est-il ? Je ne le vois pas. »« Hélas, monsieur, il est mort pendant le voyage. » En tant que second officier, j'ai pris le commandement du navire. Et ma cargaison ? Elle est en parfait état, monsieur. Demandez à votre comptable d'Anglard, il vous le confirmera. Très bien, Dantès, dit alors Morel rassuré. La mort du capitaine est une triste nouvelle en effet, mais je vois que vous le remplacez très bien. Je compte sur vous pour mon prochain voyage. Le Pharaon a besoin d'un nouveau capitaine. Dantès est au comble du bonheur. Cette promotion est la chance de sa vie. Grâce à elle, il va pouvoir subvenir aux besoins de son vieux père et épouser Mercedes, la belle catalane dont il est follement amoureux. Mais ce bonheur suscite beaucoup de jalousie. À commencer par Danglars, le comptable du bateau qui brigue lui aussi le poste de capitaine du Pharaon. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Autant Dantès est aimé de l'équipage, autant Danglars en est-il haï. C'est un homme sournois et méchant, un arriviste que la réussite d'Edmond exaspère. « Eh bien, Danglars, un voyage qui finit bien, n'est-ce pas ?» s'exclame Morel en apercevant le comptable du Pharaon. « Certainement, monsieur Morel, même si nous avons perdu 2 jours à l'île d'Elbe, les Anglais auraient pu confisquer votre navire et faire prisonnier votre équipage. Mais pourquoi diable y êtes-vous allé ? C'est à Dantès qu'il faut le demander. À la mort du capitaine Leclerc, il a pris le commandement du navire sans me consulter. En tant que second officier, c'était son devoir. » Quant à aller à l'île d'Elbe, il avait certainement de bonnes raisons. « Je les connais, ces bonnes raisons », murmure Danglars en regardant Morel s'éloigner. De retour sur le pont, l'armateur interpelle Dantès. « Pourquoi êtes-vous allé à l'île d'Elbe ? Ne savez-vous pas que c'est interdit ?»« Si, monsieur Morel, mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres du pauvre capitaine Leclerc. Avant de mourir, il m'a remis un paquet et une lettre pour l'empereur. L'avez-vous donc vu, Edmond ? Qui ? Napoléon ? Oui. » Morel regarde autour de lui et tire Dantès à part. « Et comment va l'empereur ? » demande-t-il vivement de peur qu'on ne l'entende. « Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. Il m'a même parlé de vous et de votre oncle Policarpe Morel qui a servi dans le même régiment que lui à Valence. « C'est vrai, dit l'armateur, mon oncle est un vrai grognard. Bon, vous avez bien fait, Dantès. Quoique, si l'on savait que vous avez remis un paquet à l'empereur, cela pourrait vous compromettre. Surtout, n'en parlez à personne. Le Pharaon a besoin de son capitaine. « Repartons-nous bientôt, monsieur ?» demande Danglars, qui s'était lentement rapproché de Morel pendant qu'Edmond veillait à la manœuvre. « Dans 3 mois. Quant à l'île d'Elbe, tout est réglé. Soyez sans crainte. Dantès vous a donc parlé de la lettre ?»« Quelle lettre ? De quoi parlez-vous » demande Morel, qui feint de ne pas comprendre pour ne pas trahir Dantès. Ah, je croyais. Mais c'est sans importance, n'en parlons plus. Descendu à terre, Edmond se précipite chez son père et lui annonce la bonne nouvelle. Que le Seigneur me pardonne, dit le jeune homme, de me réjouir d'un bonheur fait avec le deuil d'une famille. Le brave capitaine Leclerc est mort, mon père, et il est probable que, par la protection de Morel, je vais avoir sa place. Comprenez-vous, mon père, capitaine à 20 ans? « Oui, mon fils, oui, en effet, dit le vieillard, c'est heureux. Je veux que du premier argent que je toucherai, vous ayez une petite maison avec un jardin. » Mais qu'avez-vous donc? On dirait que vous vous sentez mal. Ce n'est rien, c'est l'émotion, dit le père Dantès. Sans doute, répliqua Edmond, mais vous êtes bien pâle. Un verre de vin vous fera du bien. Edmond se précipite dans la cuisine et découvre consterné que son pauvre père manque de tout. Ni pain, ni vin, rien. Aucune nourriture. Le buffet est désespérément vide. De retour dans la pièce auprès du vieillard, « Avez-vous manqué d'argent, mon père ?»« Je n'ai manqué de rien, puisque te voilà, » dit le vieillard. « Je vous avais pourtant laissé 200 francs il y a 3 mois en partant, » dit Edmond. « Oui, oui, Edmond, c'est vrai. Mais tu avais oublié en partant une petite dette chez le voisin Cadrousse. Il me l'a rappelé en me disant que si je ne payais pas pour toi, il irait se faire payer chez Morel. Alors, tu comprends, j'ai eu peur que cela te fasse du tort. J'ai préféré payer pour toi. Mais c'était 140 francs que je devais à Cadrousse, et vous les avez donnés sur les 200 francs que je vous avais laissés, de sorte que vous avez vécu 3 mois avec 60 francs. Tu sais combien il me faut peu de choses, dit le vieillard. Oh mon Dieu, pardonnez-moi, s'écria Edmond. Cela n'arrivera plus. Tenez, père, prenez et envoyez chercher tout de suite quelque chose, dit-il en vidant sur la table ses poches, d'où sortent une douzaine de pièces d'or. Doucement, doucement, dit le vieillard. Si l'on me voyait acheter trop de choses à la fois, on pourrait croire que j'ai été obligé d'attendre ton retour pour les acheter. Faites comme vous voudrez, mais avant toute chose, prenez une servante. Je ne veux plus que vous restiez seul. Et maintenant, pardonnez-moi, mais j'ai hâte de retrouver Mercédès. Cadrousse, entrez donc, cher ami. Vous êtes venu voir Edmond, n'est-ce pas ? Dit le vieux Dantès en apercevant un homme à la porte restée ouverte. Cadrousse, le voisin du père Dantès, est un homme de 25-26 ans, à la tête noire et barbue, tailleur d'habits de profession. Eh, te voilà donc revenu, Edmond, dit-il avec un fort accent marseillais. Comme vous voyez, voisin Cadrousse, et prêt à vous être agréable en quelque sorte que ce soit, répond Dantès, en dissimulant mal sa froideur à l'égard de cet homme dont les lèvres disent une chose tandis que le cœur en pense une autre. Merci, merci. Heureusement, je n'ai besoin de rien et ce sont même quelquefois les autres qui ont besoin de moi. Oh, je ne te dis pas cela pour toi, Edmond. Je t'ai prêté de l'argent, ton père me l'a rendu. Cela se fait entre bons voisins et nous sommes quittes. On n'est jamais quitte envers ceux qui nous ont aidés, dit Dantès, car lorsqu'on ne leur doit plus d'argent, on leur doit la reconnaissance. Ce bon Cadrousse, dit le vieillard, il nous aime tant. Alors, il paraît que tu deviens riche, garçon, dit le tailleur en jetant un regard oblique sur la poignée d'or et d'argent restée sur la table. Vous vous trompez, Cadrousse, dit Edmond, qui a remarqué le regard de convoitise de son voisin. Cet argent appartient à mon père. Il a vidé sa bourse sur la table devant moi, pour me prouver qu'il n'avait eu besoin de rien pendant mon absence. « Ah, je croyais. On m'a dit au port que tu allais être nommé capitaine, alors... » « Ce n'est pas encore fait, » répond Dantès, pressé d'en finir avec ce voisin trop curieux à son goût. « Cela se fera, » dit Cadrousse. « Je lis le bonheur dans tes yeux. Comme se fera aussi ton mariage avec la belle Mercédès. »« Mais si nous devons encore nous fiancer, » s'exclame Edmond en riant. « Qui t'en empêche maintenant que te voilà presque capitaine ?»« Justement, » dit Edmond, « j'allais rejoindre Mercédès lorsque vous êtes arrivé. »« Alors qu'attends-tu ? Dépêche-toi ! Et mariez-vous le plus tôt possible, crois-moi. Mercédès est une belle fille, et les belles filles ne manquent pas d'amoureux. Celle-là, surtout, elle est toujours accompagnée d'un jeune homme de ton âge. »« J'y vais, » dit Fernand avec un sourire qui dissimule mal son inquiétude. Il embrasse son père, salue d'un signe de la tête son voisin Cadrousse, et sort sans ajouter un mot. Cadrousse est un hypocrite qui rend service quand ça l'arrange. N'empêche, il a tout de même été bon pour moi, murmure Edmond en quittant la maison de son père. Pendant ce temps, dans sa petite maison au village des Catalans, Mercédès fait face aux insistances de Fernand Mondego, son cousin, éperdument amoureux d'elle. Les Catalans, comme on les appelle à Marseille, sont les lointains descendants d'une colonie d'Espagnols arrivée par la mer il y a 3 ou 4 siècles, sans que personne ne sache d'où ils venaient exactement, ni pourquoi ils avaient quitté leur patrie. Depuis, ils sont demeurés fidèles au petit promontoire que la commune de Marseille leur avait donné, sans se mêler en rien à la population, se mariant entre eux et conservant les mœurs et les coutumes de leur mère patrie, comme ils en ont conservé le langage. « Voyons, Mercédès, dit Fernand, voici Pâques qui va revenir, C'est le moment de faire une noce, répondez-moi. Je vous ai répondu 100 fois, Fernand. Pourquoi me le demandez-vous encore? Eh bien, répétez-le encore pour que j'arrive à le croire. Dites-moi pour la 100e fois que vous refusez mon amour. Je vous aime comme un frère, mais mon cœur est à un autre. Oui, je le sais bien, Mercedes. Mais oubliez-vous que c'est parmi les Catalans une loi sacrée de se marier entre eux? Ce n'est pas une loi, c'est une habitude, voilà tout. Et puis, vous allez bientôt devoir partir, Fernand. Une fois soldat, que ferez-vous d'une pauvre fille orpheline, triste, sans fortune? Depuis 1 an que ma mère est morte, je vis presque de la charité publique. Contentez-vous de mon amitié, puisque je ne puis vous donner autre chose. Le jeune Catalan serre les poings dans un geste de rage. Ne vous en prenez pas à lui, Fernand. À quoi cela vous avancerait-il? Croyez-moi, chercher querelle à un homme est un mauvais moyen de plaire à la femme qui aime cet homme. Voyons, Mercedes, dit-il. Encore une fois, répondez. C'est votre dernier mot? J'aime Edmond Dantès, dit froidement la jeune fille. Mais s'il est mort, vous savez combien la mère est cruelle? Ou s'il vous oublie? Mercedes! Mercedes! C'est la voix d'Edmond qui arrive en courant. La jeune fille s'élance vers la porte et se jette dans les bras de son fiancé. « Tu vois bien qu'il ne m'a pas oublié, » dit-elle en s'adressant à Fernand. « Qui est ce monsieur ?» demande Fernand à Mercedes. « C'est mon cousin Fernand, c'est-à-dire l'homme qu'après vous, Edmond, j'aime le plus au monde. » Alors, Edmond se tourne vers le jeune homme et lui tend cordialement la main. Mais Fernand, fou de jalousie, s'élance hors de la maison et part en courant. « Je n'imaginais pas en venant ici y trouver un ennemi, » dit Edmond en regardant Mercedes, émue et tremblante. « Fernand ne sera jamais votre ennemi, Edmond. Il m'aime comme une sœur. Il ne vous fera jamais de mal. Je vous crois, Mercedes, et je vous aime. Mais laissons cela et réjouissez-vous car nous allons pouvoir nous marier. Quand ?» lui demande Mercedes qui n'ose y croire. « Mais le plus tôt possible, mon amour. Le capitaine du Pharaon est mort pendant le voyage et Monsieur Morel a promis de me nommer capitaine à sa place. Demain, nos fiançailles. » « Et la noce ?» demande encore Mercedes. « Dès que je serai rentrée de Paris. Une dernière commission de mon pauvre capitaine. Mais sois tranquille, je ne prendrai que le temps d'aller et de revenir. » Chapitre 2. Le complot. Le spectacle de Mercedes tendrement enlacée à Edmond avait été pour Fernand un supplice insupportable. Fou de rage, il s'était enfui en courant sans rien voir autour de lui, le regard perdu dans ses sombres pensées. « Fernand, où cours-tu si vite ?» dit une voix. « Tu es si pressé que tu ne reconnais pas tes amis ?» C'est la voix de Caderousse, en face de lui, attablé devant une bouteille de vin, Danglars. Les deux hommes s'étaient rencontrés sur le port et avaient décidé d'aller du côté des Catalans. « Pour en savoir plus, » avait dit Caderousse. Assis à la terrasse d'une auberge, ils avaient vu Dantès se diriger vers la maison de Mercedes. Les deux prétendants allaient se trouver face à face. Lequel des deux aurait les faveurs de la belle catalane? Voyant Fernand s'éloigner précipitamment des Catalans, ils avaient compris que la jeune fille lui avait préféré Edmond. Danglars, Caderousse, que faites-vous donc ici? Dit Fernand en les voyant. Je t'ai appelé parce que tu courais comme un fou, dit Caderousse en lui versant un verre de vin. Veux-tu que je te dise, Fernand, tu as l'air d'un amant éconduit. Et après, dit le jeune homme en regardant fixement Caderousse, « Mercedes ne dépend de personne, n'est-ce pas? Elle est bien libre d'aimer qui elle veut. »« Ah, si tu le prends ainsi, » dit Caderousse, « c'est autre chose. »« Et à quand la noce » demande-t-il. « Oh, elle n'est pas encore faite, » dit Fernand. « Non, mais elle se fera, » dit Caderousse. « Aussi vrai que Dantès sera le capitaine du Pharaon, n'est-ce pas, Danglars? Buvons donc au capitaine Edmond Dantès, mari de la belle Catalane. » Danglars, qui avait jusque-là écouté les deux hommes en silence, voit dans les yeux de Fernand le reflet de sa propre colère. À cause d'Edmond, ils ont l'un et l'autre perdu ce qui leur tenait le plus à cœur. Lui, le commandement du Pharaon, l'autre, la femme qu'il aime. L'Espagnol pourrait lui être utile. « Voilà un mariage qui ne me paraît pas faire le bonheur de tout le monde, » dit Danglars en s'adressant à Fernand. « Il me désespère. » « Vous aimez donc Mercedes ? Je l'adore. Depuis longtemps ? Depuis que nous nous connaissons, je l'ai toujours aimée. Et vous êtes là à vous arracher les cheveux au lieu de chercher remède à la chose ? Que voulez-vous que je fasse ? Demande Fernand.
Mais je n'en sais rien, moi. Ce n'est pas moi qui suis amoureux, dit Danglars en ajoutant immédiatement. Voyons, vous me paraissez un gentil garçon et je veux vous aider. Écoutez-moi, que se passerait-il s'il y avait entre Edmond et Mercédès les murailles d'une prison ? Pourquoi mettrait-on Dantès en prison ? S'exclame Caderousse. Il n'a ni volé, ni tué, ni assassiné. Tais-toi, dit Danglars, tu es ivre. Pas encore, répond Caderousse en se versant par défi un nouveau verre de vin. Mais le moyen, dit Fernand. Garçon, dit Danglars, une plume, de l'encre et du papier. Eh bien, supposez, dit encore Danglars, que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste. Et ayant obtenu ce qu'il avait demandé, il se met à écrire en lisant à voix haute la lettre. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferraro, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Mais, dit Danglars en poussant la lettre hors de la portée de sa main, ce que je dis et ce que je fais, c'est en plaisantant. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il arrive malheur à ce bon Dantès. Et en disant ces mots, il prend la feuille de papier, la froisse dans ses mains et la jette. À la bonne heure, dit Caderousse. Dantès est mon ami et je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Mais personne ici ne veut faire de mal à Dantès, ni moi ni Fernand, dit Danglars en se levant et en regardant du coin de l'œil Fernand, les yeux fixés sur la lettre roulée en boule dans un coin. « Bravo, dit Caderousse. Il y a dans ce papier de quoi tuer un homme plus sûrement que si on l'attendait au coin d'un bois pour l'assassiner. »« Allons, viens, ivrogne, dit Danglars en soulevant Caderousse de sa chaise. Je te raccompagne en ville. » Resté seul, Fernand se précipite sur le papier et le met dans sa poche. Quelques instants plus tard, Danglars et Caderousse voient le Catalan courir en direction de Marseille. Alors, commence pour Edmond une longue et douloureuse descente en enfer. Seul, abandonné de tous, éternellement plongé dans l'obscurité, il vit un cauchemar perpétuel. Les jours passent sans qu'il s'en aperçoive. Sa pauvre vie est une succession de silences insupportables. Ses cris, personne ne les entend. Ses larmes, personne ne les voit. Son désespoir, tout le monde l'ignore. Sait-on seulement qu'il existe encore ? Parfois, il doute lui-même d'être encore en vie. Un an environ après son incarcération, la porte de son cachot s'ouvre brusquement. C'est l'inspecteur général des prisons, envoyé au château d'If pour voir comment les prisonniers y sont traités. « Quel jour sommes-nous ?» demande Edmond qui avait oublié de compter les jours en entrant au cachot. « Le 30 juillet 1816. »« Qui êtes-vous ? » ?»« D'habitude, c'est moi qui pose les questions, » répond l'homme. « Je suis l'inspecteur général des prisons. Pourquoi avez-vous été condamné ?»«
Je n'ai pas été condamné, monsieur, » répond Dantès.
« Quel crime avez-vous commis ?»«
Je l'ignore. » »«
Allons, allons, on ne met pas en prison les gens sans motif. » »«
C'est pourtant la vérité, monsieur. Je demande quel crime j'ai commis. Je demande que l'on me donne des juges. Je demande que mon procès soit instruit. Je demande enfin que l'on me fusille si je suis coupable, mais aussi qu'on me mette en liberté si je suis innocent.
« Êtes-vous bien nourri ?» demande l'inspecteur.
« Oui, je le crois, je n'en sais rien. »«
Avez-vous eu froid cet hiver ?»«
Monsieur, dit encore Dantès, je sais que vous ne pouvez pas me faire sortir d'ici de votre propre décision, mais vous pouvez transmettre ma demande à l'autorité. Tout ce que je demande, c'est de savoir quel crime j'ai commis. »«
Je vous promets d'examiner votre dossier, dit l'inspecteur.
Oh » Alors, monsieur, je suis libre, je suis sauvé.
Qui vous a fait arrêter ?
Le juge Villefort.
Voyez-le et entendez-vous avec lui.
Villefort avait-il quelque motif de haine contre vous ?
Aucun, monsieur.
Et même, il a été bienveillant pour moi. Il m'a parlé comme un ami et m'a donné de bons conseils. Je pourrai donc me fier aux notes qu'il a laissées sur vous ou qu'il me donnera.
Entièrement, monsieur.
C'est bien. Attendez. Je vais voir ce que je peux faire pour vous.
Une fois la porte du cachot refermée, Edmond tombe à genoux et lève les mains vers le ciel.
Merci, mon Dieu, de m'avoir envoyé cet homme qui est descendu dans ma prison pareil au sauveur venu délivrer les âmes de l'enfer.
Ma vie renferme un immense malheur, dit Dantès. Un malheur que je n'ai pas mérité et qui serait trop long à raconter.
Voyons, dit l'abbé, racontez-moi donc votre histoire, nous avons tout notre temps.
Dantès raconte alors l'incroyable erreur judiciaire dont il est victime.
Une fois son récit achevé, l'abbé réfléchit longuement, puis «
Quand on veut découvrir le coupable d'une mauvaise action, on cherche d'abord celui à qui le crime commis peut être utile.
À qui votre disparition pouvait-elle être utile ?»«
À personne, mon Dieu, j'étais si peu de chose !»«
Erreur !» s'exclame alors l'abbé. « Vous alliez être nommé capitaine du Pharaon. Vous alliez épouser une belle jeune fille.
Quelqu'un ambitionnait-il votre place ? Quelqu'un était-il amoureux de Mercédès à votre insu ?
Un seul homme avait quelque motif de m'en vouloir.
Son nom ?
Danglars. Il était agent comptable à bord du Pharaon.
Quelqu'un a-t-il pu entendre votre conversation avec le capitaine Leclerc ?
Oui, car la porte était ouverte. Et même...
Attendez, oui. Oui, Danglars est passé juste au moment où le capitaine Leclerc me remettait le paquet destiné à l'empereur.
C'est clair comme le jour, dit l'abbé. Il faut que vous ayez eu le cœur bien naïf et bien bon pour n'avoir pas deviné la chose tout d'abord.
Dantès recule et regarde presque avec terreur l'abbé. Passons à la seconde question. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousiez pas Mercédès ?
Oui, un jeune homme qu'il aimait.
Son nom ?
Fernand.
C'est un nom espagnol.
Et les Catalans ?
Croyez-vous que celui-ci était capable d'écrire la lettre ?
Non.
Il m'aurait plutôt donné un coup de couteau. D'ailleurs, il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation.
Vous ne les aviez donnés à personne ? Pas même à votre maîtresse ?
Pas même à ma fiancée.
Attendez, ce Danglars connaissait-il Fernand ?
Non ?
Si, je me rappelle.
Quoi ?
Le jour de mes fiançailles, ils étaient à la même table. Danglars était amical et railleur. Fernand était pâle et troublé.
Ils étaient seuls ?
Non.
Ils avaient avec eux un troisième compagnon bien connu de moi, un tailleur nommé Cadrousse.
Oh ! Les infâmes ! Les infâmes !
Quel intérêt ce troisième homme avait-il à vous trahir ?
Qui ?
Cadrousse ?
Aucun.
Peut-être était-il simplement jaloux de mon bonheur.
Oh, les misérables !
Voulez-vous encore savoir autre chose ? Dit l'abbé en riant.
Puisque vous voyez clair en toutes choses, je veux savoir pourquoi je n'ai été interrogée qu'une fois, pourquoi on ne m'a pas donné des juges et comment je suis condamnée sans arrêt.
Qui vous a interrogée ?
Le substitut du procureur du roi ?
Jeune ou vieux ?
Jeune, 27 ou 28 ans.
Quelles furent ses manières avec vous ?
Douce, plutôt que sévère.
Lui avez-vous tout raconté ?
Tout.
Et il m'a donné une grande preuve de sa sympathie.
Laquelle ?
Il a brûlé la seule pièce qui pouvait me compromettre.
La dénonciation ?
Non, la lettre.
Vous en êtes sûr ?
Cela s'est passé devant moi.
Cette conduite est trop sublime pour être naturelle.
Vous croyez ?
J'en suis sûr.
À qui cette lettre était-elle adressée ?
À Monsieur Noirtier, rue Coq et Rond, numéro 13 à Paris. Il m'a fait jurer de ne pas prononcer le nom qui était inscrit sur l'adresse.
Noirtier, répète l'abbé, Noirtier. J'ai connu un Noirtier à la cour de l'ancienne reine d'Étrurie, un Noirtier qui avait été Girondin sous la Révolution.
Comment s'appelait votre substitut à vous ?
De Villefort.
L'abbé éclate alors de rire.
Dantès le regarde avec stupéfaction.
Qu'avez-vous, dit-il ?
Pauvre enfant, pauvre jeune homme ! Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes !
Savez-vous ce que c'était que ce Noirtier ?
Ce Noirtier, c'était son père !
De retour à bord, le chef des contrebandiers, qui a eu le temps de juger de ses qualités de marin, lui propose de faire partie de son équipage. Edmond accepte.
Le métier de contrebandier est dangereux, mais il n'a pas le choix. Et puis, il y a le trésor du cardinal Spada. Monte Cristo, Monte Cristo. Les derniers mots de l'abbé Faria résonnent encore dans sa tête. Depuis sa fuite, il n'a fait qu'y penser. Mais comment se rendre sur la petite île sans éveiller les soupçons des contrebandiers? Après plusieurs expéditions en Corse, en Sardaigne et dans d'autres petites îles de la Méditerranée, la chance finit par lui sourire. Le patron de la jeune Amélie choisit l'île sauvage de Monte Cristo pour décharger son bâtiment d'une précieuse cargaison de tapis turcs et d'étoffes du Cachemire. Une grosse affaire. Descendu à terre, Edmond feint d'être tombé dans un précipice afin de rester seul sur l'île. Le voyant si mal en point, hurlant de douleur chaque fois qu'ils essaient de le déplacer, ses compagnons sont bien obligés de l'abandonner sur l'île, tout en lui promettant de repasser une semaine plus tard. Une semaine, c'est plus qu'il n'en faut à Edmond pour trouver la cachette du cardinal Spada. Resté seul, il sort de sa poche le précieux document que lui a remis l'abbé Faria et part immédiatement à la recherche de son trésor. S'orientant avec la carte et les indications qu'elle contient, Edmond finit par trouver la grotte, au fond de laquelle il découvre un coffre de bois de chêne cerclé de fer ciselé. Au milieu du couvercle, sur une plaque d'argent, resplendissent les armes de la famille Spada. L'abbé avait donc dit vrai. Edmond ouvre frénétiquement le coffre, ferme les yeux puis les ouvre, comme font les enfants pour augmenter l'effet de leur surprise. À l'intérieur, c'est un éblouissement d'or et de pierres précieuses. Trois compartiments s'offrent à lui. Dans le premier, brillent de rutilants écus d'or aux fauves reflets. Dans le second, des lingots rangés en bon ordre. Dans le troisième, enfin, à demi-plein, des centaines de diamants, de perles, de rubis. Une cascade étincelante qui fait, en retombant les uns sur les autres, le bruit de la grêle sur les vitres. Après avoir touché, palpé, enfoncé ses mains frémissantes dans l'or et les pierreries, Edmond glisse une poignée de diamants dans l'une de ses poches, se relève et sort de la caverne avec la tremblante exaltation d'un homme qui touche à la folie. « Me voilà riche !» se dit Edmond. « Plus riche qu'aucun homme ne l'a jamais été, si riche que rien ni personne ne pourra s'opposer à ma vengeance. Ma liberté, c'est Dieu qui me l'a rendue. Ce trésor, c'est lui qui me le donne pour que je punisse les criminels qui m'ont volé ma jeunesse, mon amour, ma vie. Je serai le bras vengeur de la volonté divine. » Edmond Dantès est mort en même temps que l'abbé Faria. Le comte de Monte Cristo lui succède aujourd'hui pour accomplir sa dernière, son unique volonté, vengeance. Comme promis, 6 jours plus tard, les contrebandiers de la jeune Amélie sont de retour sur l'île pour le ramener à Livourne. À peine débarqué, Edmond prend congé de l'équipage et du patron en promettant de lui donner un jour ou l'autre de ses nouvelles. Il commence par acheter un passeport anglais, puis il vend quelques diamants pour financer son expédition à Monte Cristo, où son trésor l'attend. Grâce à cet argent, il achète une barque et la donne à Jacopo, le marin avec lequel il s'est lié d'amitié sur la jeune Amélie, à la condition qu'il aille à Marseille demander des nouvelles d'un vieillard nommé Louis Dantès et d'une jeune fille du village des Catalans, Mercedes. Pendant ce temps, Edmond ira à Gênes, achètera un yacht et ira l'attendre à Monte Cristo. Du rocher qui surplombe la grotte qu'il a eu le temps de vider de son contenu, Edmond voit débarquer Jacopo 8 jours après son arrivée sur l'île. Malheureusement, les nouvelles sont mauvaises. Le vieux Dantès est mort et Mercedes a disparu. Edmond décide alors de mettre le cap sur Marseille. Revenu incognito sur les lieux de son enfance et de sa jeunesse, il apprend que Caderousse, son ancien voisin, tient à présent une petite auberge à Beaucaire, près d'Arles, et que les affaires de l'ancien tailleur vont plutôt mal. « Commençons par lui », se dit Edmond, qui décide d'aller rendre visite à l'aubergiste déguisé en abbé, un gros diamant dans sa soutane. « Je cherche un nommé Caderousse. C'est moi, monsieur, Gaspard Caderousse, pour vous servir. Mais entrez donc, installez-vous, je vais vous chercher une bonne bouteille de vin. » Caderousse revient quelques minutes plus tard et s'assied avec la bouteille et 2 verres à la table de l'abbé. « Vous demeuriez autrefois à Marseille, n'est-ce pas ?» lui demande l'abbé. « C'est cela.
Et vous y exerciez la profession de tailleur?
Oui.
Pardonnez mes questions, monsieur Cadrousse, mais je suis l'abbé Busoni et je viens d'Italie. Je dois m'assurer que vous êtes bien celui à qui j'ai affaire. Quelle preuve voulez-vous que je vous donne? Avez-vous connu en 1814 ou 1815 un marin qui s'appelait Dantès?
Dantès? Si je l'ai connu?
Ce pauvre Edmond!
Je le crois bien.
C'était même un de mes meilleurs amis. Et qu'est-il devenu, monsieur, ce pauvre Edmond? Continue l'aubergiste. L'auriez-vous connu? Vit-il encore? Est-il libre? Est-il heureux?
Il est mort prisonnier, plus désespéré et plus misérable que les forçats qui traînent leurs boulets au bagne de Toulon.
Pauvre petit, murmure Cadrousse, soudain très pâle.
Vous paraissez aimer ce garçon de tout votre cœur, monsieur, demande l'abbé.
Oui, je l'aimais bien, dit Cadrousse, quoique j'ai à me reprocher d'avoir un instant envié son bonheur. Mais depuis, je vous le jure, foi de Cadrousse, j'ai bien plaint son malheureux sort.
Vous l'avez bien connu, le pauvre petit, continue l'aubergiste.
J'ai été appelé à son lit de mort pour lui offrir les derniers secours de la religion, répond l'abbé.
Et de quoi est-il mort? Demande Cadrousse d'une voix étranglée.
Et de quoi meurt-on en prison quand on y meurt à 30 ans, si ce n'est de la prison elle-même?
De grosses gouttes de sueur coulent à présent sur le front de Cadrousse, de plus en plus mal à l'aise.
Ce qu'il y a d'étrange dans tout cela, reprend l'abbé, c'est que Dantès m'a toujours juré qu'il ignorait la véritable cause de sa captivité.
C'est vrai, murmure Cadrousse. Il ne pouvait pas le savoir. Non, monsieur l'abbé, il ne mentait pas, le pauvre petit.
C'est pourquoi, avant de mourir, il m'a chargé d'essayer de faire toute la lumière sur son arrestation et de réhabiliter sa mémoire.
En disant ces mots, l'abbé tire de sa poche une petite boîte qu'il pose devant lui. Il l'ouvre. Le diamant dans son écrin étincelle au soleil devant les yeux éblouis de l'aubergiste.
« Ce diamant, monsieur Cadrousse, m'a été remis par Dantès sur son lit de mort. Ne me demandez pas comment il l'a obtenu, ce serait trop long à expliquer. Écoutez plutôt la suite. « J'avais 3 bons amis et une fiancée, m'a-t-il dit. Tous 4, j'en suis sûre, me regrettent amèrement. L'un de ces bons amis s'appelait Cadrousse. »
Cadrousse frémit.
L'autre s'appelait Danglars. Le troisième, a-t-il ajouté, bien que mon rival m'aimait aussi et s'appelait Fernand. Quant à ma fiancée, son nom était...
Je ne me rappelle plus le nom de la fiancée, dit l'abbé.
Mercedes, dit Cadrousse.
Ah oui, c'est cela, répète l'abbé avec un soupir étouffé. Mercedes.
Mais ce diamant, demande Cadrousse, dont les yeux brillent de convoitise.
Mais ce diamant, demande Cadrousse, dont les yeux brillent de convoitise.
Dantès m'a demandé de le vendre et de partager la somme de la vente entre ces 5 personnes.
« Comment 5 parts ? » dit Cadrousse.
« Vous ne m'avez nommé que 4 personnes ?»«
Parce que la 5e est morte, à ce qu'on m'a dit. La 5e était le père de Dantès. »«
Hélas, oui, dit Cadrousse ému.
Hélas, oui, le pauvre homme, il est mort. »«
J'ai appris cet événement à Marseille, » répond l'abbé en faisant un effort pour paraître indifférent. Mais il y a si longtemps que cette mort est arrivée que je n'ai pu recueillir aucun détail. Sauriez-vous quelque chose de la fin de ce vieillard, vous ?
Eh, dit Cadrousse, qui peut savoir cela mieux que moi ? Je demeurai porte à porte avec le bonhomme. Et, mon Dieu, oui, 1 an à peine après la disparition de son fils, il mourut, le pauvre vieillard.
Mais de quoi est-il mort ?
Ceux qui le connaissaient ont dit qu'il était mort de douleur. Et moi, qui l'ai presque vu mourir, je dis qu'il est mort.
Cadrousse s'arrête.
Mort de quoi ? Répète avec anxiété le prêtre.
Eh bien, mort de faim.
De faim ? S'écrie l'abbé, bondissant sur son escabeau. De faim ? Les plus vils animaux ne meurent pas de faim. Oh, c'est impossible !
J'ai dit ce que j'ai dit, reprit Cadrousse. Quant à ceux que le pauvre Edmond vous a dit être ses amis,
ne l'était-il donc pas ? Dit l'abbé.
Dantès, qui était un cœur d'or, appelait tous ces gens ses amis.
Pauvre Edmond,
il vaut mieux qu'il n'ait rien su. Il aurait eu trop de peine à leur pardonner au moment de la mort.
Je ne vous comprends plus, dit l'abbé. Ces gens étaient-ils ou n'étaient-ils pas ses amis ?
Peut-on être l'ami de celui dont on convoite la femme ? Répond Cadrousse.
Mais c'est une histoire compliquée.
Racontez-la-moi.
Ce serait trop long. « Sans compter que ces gens peuvent m'écraser d'un geste, » dit l'aubergiste en regardant autour de lui, de crainte d'être entendu.
Ils sont devenus riches et puissants.
Occupons-nous à présent de Danglars, se dit Edmond. Quelques jours plus tard, le banquier reçoit une lettre d'une grande banque italienne qui lui demande d'ouvrir un crédit illimité à Monsieur le Comte de Monte Cristo. Danglars, qui, comme tout le monde à Paris, a entendu parler de ce mystérieux et richissime étranger, comprend qu'il y a beaucoup d'argent à gagner avec ce milliardaire excentrique qui dilapide son argent en fêtes somptueuses. Si bien que lorsque le comte de Monte Cristo, quelques jours plus tard, demande à être reçu par le banquier Danglars, celui-ci l'accueille à bras ouverts.
« De combien d'argent voulez-vous pouvoir disposer, monsieur le comte ?» demande Danglars. « 1 million ?»«
Et que ferais-je d'un million ?» dit le comte.
« Bon Dieu, monsieur, si j'avais voulu 1 million, je ne me serais pas fait ouvrir un crédit pour une pareille misère. 1 million ! Mais j'ai toujours 1 million dans mon portefeuille. »
« Alors combien ?» demande timidement Danglars.
« Si vous le voulez bien, fixons une somme générale pour la première année. 6 millions, par exemple. »«
6 millions, soit. »
dit Danglars suffoqué.
« S'il me faut plus, reprend machinalement Monte Cristo, nous mettrons plus. Mais je ne compte rester qu'une année en France, et pendant cette année, je ne crois pas dépasser ce chiffre. Enfin, nous verrons. »
L'appât du gain ayant séduit Danglars, le comte passe alors à la seconde partie de son plan. Il laisse s'écouler 1 mois, puis se rend au télégraphe de l'Observatoire et offre à l'employé 25 000 francs pour transmettre une fausse nouvelle qui, une fois arrivée à destination, fera chuter le cours des actions de la banque Danglars. Averti par un de ses amis journalistes avant que la nouvelle ne se répande, Danglars se précipite à la bourse et découvre que le cours de ses actions est en train de baisser dangereusement. Croyant bien faire, il donne l'ordre de vendre et parvient ainsi à sauver une partie de son capital. Le lendemain, le piège se referme. L'annonce de ce que tout le monde croit être une erreur du télégraphiste fait immédiatement remonter les actions qui avaient chuté la veille. Pour le banquier, c'est une catastrophe. Contraint de racheter plus cher ses propres actions, il perd plusieurs millions en moins d'une heure et vient à manquer de liquidité. C'est alors que se présente Monte Cristo pour exiger le versement des 6 millions du crédit que Danglars lui avait accordé. « Mon crédit chez vous est de 6 millions, dit le comte. J'ai pris 900 000 francs, il me reste 5 millions 100 000 francs. Je suis venu les retirer de votre banque, car il faut vous dire que j'ai fort besoin d'argent aujourd'hui. Tenez, voici le reçu. Ma banque en Italie vous paiera dès que vous le lui présenterez. » Danglars est terrorisé. L'affaire du télégraphe lui a fait perdre une grande partie de ses dépôts. En retirant son argent, Monte Cristo l'accule à la faillite.
Quoi ? Balbutia-t-il. Quoi ? Monsieur le comte, vous prenez cet argent ? Mais, pardon, c'est à peu près la somme que je dois aux Hospices de la Charité. Toutes leurs aumônes. Et j'avais promis de payer ce matin.
Peut-être préférez-vous que l'on sache que la banque Danglars ne m'a pas payé comptant l'argent qu'elle me doit ?
Non, dit Danglars, qui n'hésite pas un instant à sacrifier l'argent des pauvres et des orphelins de la charité publique pour éviter le scandale. Prenez ce qu'il vous faut et donnez-moi votre reçu.
Le voici, dit Monte Cristo. Cet argent vous sera naturellement rendu à Rome lorsque vous présenterez ce billet à ma banque.
Danglars prend le papier que lui présente le comte et lit « Reçu de Monsieur le baron Danglars la somme de 5 millions 100 000 francs, dont il se remboursera à volonté sur la maison Thomson et French de Rome. »
« Tout est en ordre, dit-il. Vous pouvez disposer de votre argent, monsieur le comte. »
Puis, prétextant une affaire urgente, Danglars salue Monte Cristo et quitte précipitamment la banque. Rentré chez lui, il s'enferme à double tour, vide son coffre-fort, réunit une 50 000 francs en billets de banque, brûle des papiers compromettants. « Demain, je serai loin », murmura-t-il en prenant son passeport. La faillite de la banque Danglars est un immense scandale. Morcerf, alias Fernand, et Villefort tremblent pour leur argent. Et pas seulement. Depuis quelque temps, des rumeurs concernant la trahison du pacha de Janina circulent dans Paris.
On parle de témoin, de dénonciation anonyme. Qui est l'officier français qui aurait fait assassiner le père Dédé et réduit la princesse en esclavage? De retour à Paris, Monte Cristo se rend à une invitation du comte et de la comtesse de Morcerf, un grand dîner suivi d'un bal. Comment vous remercier, monsieur le comte? Albert vous doit la vie et moi, sa mère, une reconnaissance éternelle, dit madame de Morcerf en l'accueillant dans son salon. Edmond, qui revoit Mercédès après tant d'années, s'incline profondément pour ne pas laisser voir l'émotion qui empourpre son visage. Ce faisant, il ne peut voir le trouble qui s'est emparé de la comtesse lorsque, pour un instant, son regard a rencontré le sien. « Venez, il fait trop chaud dans ce salon, dit-elle en l'entraînant dans le parc. Je voudrais vous montrer ma serre. » En entrant dans le bâtiment, la comtesse quitte le bras de Monte Cristo et cueille une grappe de raisin. « Tenez, monsieur le comte, dit-elle avec un sourire. Tenez, nos raisins de France ne sont point comparables, je le sais, à vos raisins de Sicile et de Chypre, mais vous serez indulgent pour notre pauvre soleil du Nord. » Le comte s'incline et fait un pas en arrière. « Vous me refusez ?» dit Mercédès d'une voix tremblante. « Madame, répond Monte Cristo, je vous prie bien humblement de m'excuser, mais je ne mange jamais de muscat. » « Monsieur le comte, dit Mercédès en regardant Monte Cristo d'un œil suppliant, il y a une touchante coutume arabe qui fait ami éternellement ceux qui ont partagé le pain et le sel sous le même toit. Je la connais, madame, mais nous sommes en France et non en Arabie, et en France, il n'y a pas plus d'amitié éternelle que de partage du sel et du pain. Mais nous sommes amis, n'est-ce pas ? Certainement que nous sommes amis, madame. D'ailleurs, pourquoi ne le saurions-nous pas ? S'ensuit une longue promenade silencieuse dans les allées du parc. M'a-t-elle reconnu ? Se demande Edmond. Est-ce lui ? S'interroge Mercédès. Edmond ? Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être lui. Monsieur, reprend tout à coup la comtesse. « Est-il vrai que vous ayez tant vu, tant voyagé, tant souffert ?»« J'ai beaucoup souffert, oui, madame, répond Monte Cristo. « Êtes-vous mariée ?»« Moi, mariée ?» répond Monte Cristo en tressaillant. « Qui a pu vous dire cela ?»« On ne me l'a pas dit, mais plusieurs fois on vous a vu en compagnie d'une jeune et belle personne. C'est une esclave que j'ai achetée à Constantinople, madame, une fille de prince dont j'ai fait ma fille. » N'ayant pas d'autre affection au monde. Vous vivez seul ainsi?
Je vis seul.
Vous n'avez pas de sœur, de père?
Je n'ai personne.
Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous attache à la vie?
Ce n'est pas ma faute, madame. À Malte, j'ai aimé une jeune fille et j'allais l'épouser quand la guerre est venue et m'a enlevée loin d'elle, comme un tourbillon. J'avais cru qu'elle m'aimait assez pour m'attendre pour demeurer fidèle même à mon tombeau. Quand je suis revenue, elle était mariée.
« Comme je vous comprends, dit la comtesse, cet amour vous est resté au cœur. On n'aime bien qu'une fois. Et avez-vous jamais revu cette femme ?
Jamais.
Jamais ?
Et lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir ?
À elle, oui. Mais à elle seulement. Vous haïssez toujours ceux qui vous ont séparé d'elle ?
La comtesse se place en face de Monte Cristo. Elle tient encore à la main un fragment de la grappe parfumée. Leurs yeux se rencontrent un instant pour la première fois depuis le début de leur entretien. Edmond regarde intensément celle qu'il a tant aimée.
« Prenez, dit-elle en baissant les yeux. Jamais je ne mange de muscat, madame. »
Rentré au salon, Monte Cristo rencontre Albert. « Vous avez vu ma mère ? Demande Albert.
« Je viens d'avoir l'honneur de la saluer, dit le comte, mais je n'ai point aperçu votre père.
Tenez, il parle de politique là-bas, dans ce petit groupe de grandes célébrités. Un académicien, un savant, un pair de France. Il est à côté du procureur du roi.
« Ah !» dit le comte, qui reconnaît immédiatement Villefort. « Venez, il meurt d'envie de faire votre connaissance. »
En vérité, c'est la faillite du banquier Danglars qui les préoccupait tous. Qu'était devenu le baron ? Où se cachait-il ? Morcerf était le plus inquiet,
Les insinuations sur son compte se précisaient. On parlait de témoins directs, de lettres de dénonciation. La mort d'Ali Pacha le torturait. Qui pouvait bien être à l'origine de ces rumeurs ? L'argent de sa trahison ayant transité par la banque d'Anglard, le banquier pouvait très bien être l'inspirateur de ces révélations. Mais pourquoi ? Au milieu de la nuit, une femme voilée se présente chez Monte Cristo. Elle le surprend, un pistolet à la main. « Que me voulez-vous, madame ?»« Edmond, dit l'inconnu, vous ne tuerez pas mon fils ?»« Quel nom avez-vous prononcé là, madame de Morcerf ?» dit-il. « Le vôtre, s'écrie Mercédès, celui que seul, peut-être, je n'ai pas oublié. Edmond, ce n'est pas monsieur de Morcerf qui vient à vous, c'est Mercédès. » « Mercédès est morte, madame, dit Monte Cristo, et je ne connais plus personne de ce nom. Mercédès vit, monsieur, et Mercédès se souvient, car seule elle vous a reconnu lorsqu'elle vous a vu, et même sans vous voir à votre voix, Edmond, au seul accent de votre voix. Pourquoi vous vengez sur mon fils, alors que la coupable, c'est moi, Edmond ? Non, dit le comte, c'est votre mari. J'ai été arrêtée parce que la veille même du jour où je devais vous épouser, un homme nommé Danglars a écrit une lettre m'accusant d'être un agent bonapartiste que le pêcheur Fernand se chargea lui-même de mettre à la poste. « Oh ! Mon Dieu !» dit Mercédès en passant la main sur son front mouillé de sueur. « Toutes ces années passées auprès d'un homme qui m'a toujours menti. Pourquoi l'avez-vous épousé, madame ? J'ai tant essayé d'avoir de vos nouvelles. Monsieur Morel a fait l'impossible pour savoir où vous étiez, mais rien. Tout le monde vous croyait mort. Peut-être l'étiez-vous ? Pouvais-je imaginer que... Il fallait m'attendre, madame. Mon Dieu, Edmond, dit la pauvre mère, essayant par tous les moyens de sauver son fils. Quand je vous appelle Edmond, pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercédès ? Mercédès, Mercédès. Eh bien oui. « Vous avez raison, ce nom m'est doux encore à prononcer, » dit le comte. « Oh, Mercédès, votre nom, je l'ai prononcé avec les soupirs de la mélancolie, avec les gémissements de la douleur, avec le râle du désespoir. Je l'ai prononcé glacé par le froid, accroupi sur la paille de mon cachot. Je l'ai prononcé dévoré par la chaleur, en me roulant sur les dalles de ma prison. Mercédès, il faut que je me venge. Car 14 ans j'ai souffert, 14 ans j'ai pleuré, j'ai maudit. Maintenant, je vous le dis, Mercédès, il faut que je me venge. Vengez-vous, Edmond, mais vengez-vous sur les coupables, vengez-vous sur lui, vengez-vous sur moi, mais ne vous vengez pas sur mon fils. Soit, dit le comte, votre fils vivra, mais sachez que je préférerais toujours la mort au déshonneur. Que voulez-vous dire, Edmond ? Adieu, madame. À l'aube, le jeune Albert de Morcerf et Monte Cristo se retrouvent face à face, un pistolet à la main. « Monsieur, dit Albert d'une voix tremblante, ma mère m'a tout dit. La trahison de Fernand Mondego envers Ali Pacha est grave, mais la trahison du pêcheur Fernand envers vous et les malheurs inouïs qui ont été à la suite de cette trahison est un crime. Aussi je le dis, oui, monsieur, vous avez eu raison de vous venger de mon père. Et moi, son fils, je vous remercie de n'avoir pas fait plus. » Monte Cristo, l'œil humide, la poitrine haletante, la bouche entrouverte, tend à Albert une main que celui-ci saisit et presse avec un sentiment de profonde reconnaissance. Un ange seul pouvait sauver l'un de nous de la mort, dit encore Albert. Et l'ange est descendu du ciel, sinon pour faire de nous deux amis, hélas. La fatalité rend la chose impossible, mais tout au moins deux hommes qui s'estiment. Cet ange, je le connais, murmure Monte Cristo. C'est Mercédès, votre mère. Elle vient de nous sauver la vie à tous les deux. L'après-midi du même jour, Monte Cristo conduit Aidé à la chambre des pairs, où les accusations portées contre Monsieur de Morcerf sont à l'ordre du jour. Par défi, Fernand, l'ancien pêcheur, est présent à la séance. Le président, grave, lit le message suivant. J'étais sur les lieux à la mort d'Ali Pacha. J'ai assisté à ses derniers moments.
Je suis sa fille. Je me tiens à la disposition de la commission et réclame même l'honneur de me faire entendre. Je serai dans le vestibule de la chambre au moment où l'on vous remettra ce billet. » Aidé, invité à s'expliquer, apporte les preuves de la trahison du colonel Fernand Mondego. Anéanti par les révélations de la jeune fille, l'assassin de son père quitte la salle comme un homme ayant perdu la raison. « Monte Cristo !» hurle Fernand quelques instants plus tard en entrant comme une furie dans la demeure du comte. « Hé ! C'est Monsieur de Morcerf !» dit tranquillement Monte Cristo. « Je croyais avoir mal entendu. »« Oui, c'est moi-même, » dit Fernand. « Il ne me reste donc qu'à savoir maintenant, » dit Monte Cristo, « la cause qui me procure le plaisir de vous voir. » « J'ai su que mon fils a refusé de se battre avec vous. Vous vous battrez donc avec le père !» hurle Fernand. « Jusqu'à la mort de l'un de nous deux. Partons, nous n'avons pas besoin de témoins. »« En effet, » dit Monte Cristo, « c'est inutile. Nous nous connaissons si bien. »« Oh, je sais bien, démon, que tu as pénétré dans la nuit du passé et que tu y as lu chaque page de ma vie. Mais toi, qui es-tu et d'où te vient ta richesse ?»« Qui suis-je ? Ne le devines-tu pas ? Regarde-moi. Ne reconnais-tu pas celui que tu as trahi la veille de son mariage avec Mercédès ? Edmond Dantès. » Plus horrifié que s'il avait vu un fantôme, Fernand sort à reculons de la pièce et se jette comme un fou dans l'escalier. « À l'hôtel !» dit-il à son domestique en s'engouffrant dans la voiture qui l'attendait dans la cour. En arrivant chez lui, le comte de Morcerf est méconnaissable. Il croise Mercédès et son fils au moment où ceux-ci quittent l'hôtel. « Du courage, ma mère. Venez, nous ne sommes plus ici chez nous, » entend-il dire Albert. À l'instant même où le fiacre s'apprête à partir, un coup de feu retentit dans la chambre à coucher. Fernand vient de se suicider.